Je vous invite à lire avec moi dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, un texte bien connu qui nous parle d'Élie. Alors Élie est caractérisé, quand nous parlons de lui, par le courage, la foi, la persévérance, l'homme de prière. Mais là, il débute juste, Dieu va le chercher, on ne sait où, enfin, on ne sait pas qui il est, Dieu va le chercher et s'en servir comme un instrument entre ses mains. 1 roi 17, verset 1er, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Et on va dans le Nouveau Testament garder le texte, mais dans l'épître de Jacques, où il est question également d'Élie, le prophète, au chapitre 5. Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, et nous lisons la fin du verset 16 et jusqu'à 18. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et ne tombât point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Voilà, j'aimerais au travers de cet épisode de la vie du prophète Élie, c'est au tout début de l'appel de Dieu, j'aimerais que l'on puisse voir ensemble, eh bien, la grandeur de Dieu, bien sûr, la bonté de Dieu, mais aussi la providence de Dieu, la providence de Dieu, pour en arriver comme thème à la dépendance de Dieu. C'est important, et au travers de toutes ces péripéties, au travers de toutes ces expériences, Dieu se révèle. Et il se révèle à des êtres humains, il nous est dit qu'Élie était de la même nature que nous. Alors ça nous encourage de dire que ce n'était pas des géants de la foi, c'était des hommes de la même nature que nous, ils ont reçu l'appel de Dieu. Dieu s'est révélé dans le cœur de ses serviteurs, en l'occurrence Élie, il se révèle, il l'appelle, il lui parle et il devient un instrument de bénédiction. Plaise à Dieu que nous aussi, nous puissions devenir des instruments de bénédiction. L'appel de Dieu, l'Esprit de Dieu nous amène à dépendre de lui pour ensuite être des moyens de bénédiction. Car si nous ne dépendons pas de Dieu, pouvons recevoir ce que Dieu a promis pour nous. Mais si nous dépendons de lui, nous recevons et nous pouvons donner ce que nous avons reçu. Que Dieu soit béni. La providence de Dieu, la bonté de Dieu envers son peuple, envers ses serviteurs. Vous savez que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais celui qui est dans la difficulté, dans la persécution, celui qui est dans la maladie. Dieu ne l'abandonne jamais. Nous, parfois, nous abandonnons le Seigneur, mais lui ne nous abandonnera jamais. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous rejettera pas, mais il est celui qui nous appelle et qui pourvoit à nos besoins. Nous voyons comment la main de Dieu agit d'une manière particulière quand il y a dépendance de Dieu. Je crois que si nous voulons nous attendre à voir la gloire de Dieu, à voir des miracles et des prodiges, à voir des choses grandes de Dieu, je crois qu'il faut que nous puissions dépendre de lui. Parce que les sources et les ressources sont en Dieu. Elles ne peuvent pas venir d'ici-bas, mais elles viennent d'en haut. Que Dieu nous aide. La dépendance de Dieu est une porte ouverte à la gloire de Dieu. La dépendance de Dieu est une foi vivante. Nous avons chanté ce cantique, une foi vivante en lui, une confiance pleine et entière. Est-ce que c'est facile de s'abandonner entre les mains de Dieu, de lui faire une pleine confiance? C'est pas si simple que ça, parce qu'on est compliqué. Jésus parlera souvent des petits-enfants, et un enfant, en général, tout petit, il fait confiance aux parents. S'ils lui promettent quelque chose, il va falloir tenir la promesse, parce qu'ils ne l'oublient pas. Et ils s'attendent à ce que les parents pourvoient. Il n'y a pas une inquiétude de dire est-ce qu'ils ont assez d'argent, est-ce que... Non, s'il y a eu la promesse, eh bien, ils attendent que les parents pourvoient. Il en est ainsi de notre Père Céleste. Il a les ressources, il est puissant, il est illimité. Et nous le verrons un petit peu plus loin. Donc nous pouvons et nous devons nous attendre à lui, dépendre de lui. Élie, en tous les cas, a fait cette expérience. Dépendre de Dieu, bien sûr, c'est dépendre de sa parole, dépendre de ses promesses. Et nous savons que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Alors, dépendre de Dieu, ça ne veut pas dire que tout va aller bien. Nous le savons. Dépendre de Dieu, celui qui dépend de Dieu sait que le chemin est long, et qu'il y a aussi des épreuves et des difficultés, c'est dans la Bible, c'est normal, c'est écrit. Mais nous savons que si nous dépendons de lui, il pourvoira à nos besoins, il est celui qui nous fortifiera pendant la marche, et il est celui aussi qui prévoira le moyen de sortir de l'épreuve en vainqueur. Ça, c'est notre Dieu. Et tout converge vers ce but, d'être dans une communion et dans une dépendance de lui. Vous savez, le péché, comment on le qualifierait, le péché? Le péché, c'est rien d'autre qu'être indépendant de Dieu. Manquer le but, la cible. Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, et le péché, c'est être indépendant vis-à-vis de Dieu. Et là, on fait ce qu'on veut, mais c'est ça le péché. Alors que Dieu nous a créés pour être en communion avec lui, parce que nous avons besoin de lui. Ce que Dieu nous communique, personne d'autre ne peut nous le donner. Ce dont notre âme a besoin, c'est Jésus qui nous le communique. Nous, on ne sait pas souvent ce dont réellement on a besoin dans l'être intérieur, dans l'âme. Mais le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin, dont notre âme a besoin pour être en paix, pour avoir l'espérance, pour être bien. Le Seigneur sait exactement ce qu'il nous faut. Et quand il peut le déverser dans notre cœur, alors c'est formidable. Mais Dieu veut le faire ce matin pour chacun d'entre nous. Élie était un prophète qui dépendait de Dieu. Il a été surnommé le prophète de feu, mais moi j'aimerais plutôt le surnommer le prophète qui a une communion intime avec Dieu. Il arrive avec un message de Dieu au verset premier. Et quel message? Il leur dit, voilà, vous allez travailler, vous allez faire tout ce que vous voulez, mais ça ne produira rien. Il n'y aura pas de pluie, il y aura la sécheresse. Finalement, c'est un message, un jugement contre le peuple qui s'est éloigné de Dieu. Le peuple qui a adopté, qui a accepté les idoles. Et Dieu au travers de cet homme. Alors, on est étonné. Mais de la même manière, Abraham, on est vraiment étonné. Abraham, c'était un homme idolâtre, païen. Dieu va l'appeler et l'amener jusque dans sa présence pour lui communiquer des choses, et il va devenir Abraham, il va devenir le père d'une multitude de nations. Ça nous dépasse. Un païen, Dieu l'appelle, et il lui dit, dans le chapitre 12 de la Genèse, il lui dit, voilà, quitte ton pays, quitte ta patrie, et tu iras vers un lieu que je te montrerai. Il obéit. Ça dépasse notre entendement. Il obéit et il part, et il devient, au fur et à mesure des expériences, on voit que Abraham est devenu vraiment cet homme de foi, d'ailleurs le père des croyants. Élie, c'est pareil, il arrive de on sait où, il n'y a pas de généalogie, on ne sait pas. Élie, il est là, il est pris, Dieu l'appelle, et Dieu commence à lui parler, à le façonner. Élie va devenir un moyen de bénédiction. Quand Dieu peut saisir quelqu'un, peut vraiment façonner son cœur, lui parler, et quand il y a obéissance, la bénédiction, elle va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, même pour nous. Hein. Si Dieu peut nous saisir, s'il peut nous parler, et si nous pouvons obéir à ce que Dieu nous dit, ah, là, il y a une bénédiction extraordinaire. Donc, Élie arrive avec un message, et quel message ? Vous allez être, le jugement va arriver. Il annonce le jugement de Dieu dans le pays pour avertir le peuple au travers d'Akab, qui est le représentant de la nation. Élie va lui parler pour que ce peuple puisse revenir à Dieu, puisse se repentir, puisse retourner à l'Éternel, abandonner les idoles et être béni à nouveau. Vous savez, le message de l'Évangile, qu'on prenne l'Ancien Testament, on va trouver le message de l'Évangile, on revient au Nouveau, sous la grâce, le message de l'Évangile. L'Ancien Testament, c'était quoi le message des prophètes ? Revenez à Dieu, repentez-vous, délaissez les idoles, le péché, et revenez à Dieu. Quel est le message du Nouveau Testament ? Repentez-vous, et que vos péchés soient pardonnés. Revenir à Dieu. Oui, la repentance est encore d'actualité parce que c'est inscrit dans la Bible, c'était le message de Jésus, le message des apôtres, et plaise à Dieu que ce soit toujours le message aujourd'hui, se repentir c'est la vie. C'est quand Dieu peut nous débarrasser de ceux qui nous séparent de lui. Donc Akab qui est le représentant, et nous prions pour que l'Église ait un message prophétique. Les gens de l'extérieur ont besoin d'une parole de Dieu. La ville a besoin d'une parole de Dieu. Le pays, notre pays, a besoin d'un message prophétique qui vient de l'Église. Non pas un message confus, diffus, un message qui ne correspond pas à la vie des gens, mais un message prophétique, une parole de Dieu. Dieu est vivant. Et Dieu parle aussi pour les nations, pour le peuple qui est à l'extérieur, parce que Dieu veut sauver ce peuple. Dieu veut sauver un grand nombre avant son prochain retour. Amen. Dieu veut sauver. Et nous avons besoin de faire entendre une parole prophétique venant de l'Église. Venant de l'Église et allant jusqu'à eux. Élie a été le porte-parole, le prophète de la voix de Dieu pour le peuple. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël est vivant. Et sa parole est vivante, elle est puissante, elle est agissante dans le cœur d'Élie. Il y a une foi vivante qui reçoit cette parole et qui la rend vivante pour le peuple. Vous savez, les gens, on peut leur donner des discours, des versets les uns après les autres, ils ont besoin d'une parole vivante. Et une parole vivante, c'est une parole qui a été vivante en nous, elle devient vivante. Jésus a été la parole faite chair. Et nous, les gens n'ont pas besoin de discours, ils ont besoin de voir que c'est réel, que l'Évangile, c'est puissant, que l'Évangile est libérateur du péché, libérateur de l'angoisse, libérateur de la crainte, libérateur. L'Évangile est puissant. Paul disait que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et les gens ont besoin de voir que cette parole, elle s'est inscrite dans nos vies. Et que nous n'avons pas simplement des discours, mais cette parole, elle est devenue vivante en nous, elle a agi, elle s'est manifestée, et ça se voit. Que Dieu nous aide à être cela, c'est ça un témoin. C'est pas autre chose, un témoin, c'est quelqu'un qui vit. Cette parole a agi en lui, et maintenant il la proclame, et elle va agir dans le cœur de ceux qui écoutent. L'Éternel est vivant. Pars d'ici, va vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et tu boiras l'eau du torrent. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Alors, il y a des textes qui sont vraiment étonnants dans la Bible, mais je crois que toute la Bible est vraie. Je crois que toute la Bible est inspirée. Mais c'est vrai qu'il y a des textes qui nous qui nous dépasse un petit peu. On se dit, comment Dieu va ordonner à des corbeaux, il aurait pu ordonner à d'autres animaux, mais aux corbeaux de nourrir Élie. Alors on est quand même étonné de voir ces corbeaux qui sont là et tu boiras de l'eau du torrent. Dieu fait ce qu'il veut. Et comme j'ai noté, c'est parfois étonnant, mais tout ce que Dieu a créé lui est soumis, excepté l'homme. Tout ce que Dieu a créé, le monde animal, le monde naturel, la création tout entière, et la création tout entière connaît la voix de Dieu. Alors on est étonné, on se dit, mais comment un animal comprend et des hommes ne comprennent pas? C'est pas étonnant ça? Un corbeau est capable d'entendre la voix de Dieu et obéir. Vous avez jamais réfléchi à ça? Comment c'est possible? Et nous, on est... Et le corbeau, il va dire, ok, j'y vais, j'accomplis la mission. On est quand même, ça nous dépasse. Hein. Bon, mais la création entière obéit à la voix de l'Éternel. Par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, verset 38, il est dit, Jésus dormait à la poupe sur son coussin, et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Avouez que Jésus parle et les éléments lui obéissent. Quelque part, on devrait un peu avoir honte des fois. Le vent est capable d'obéir à la voix de Dieu, les animaux peuvent obéir à la voix de Dieu. On va lire quelques autres versets. Ces forces de la nature écoutent et obéissent à la voix du Seigneur. Le psaume 29. C'est bon de relire ces choses, de dire Seigneur, mais ta parole, elle est tellement puissante, capable de faire cesser les éléments. Psaume 29. On lira à partir du verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Amen. La voix de l'Éternel, elle est puissante. Quand Dieu parle dans le livre de la Genèse, Dieu dit et la chose arrive. Seigneur, que cette parole, elle puisse percuter mon cœur. Elle est tellement puissante, elle est créatrice de vie. Élie obéit à la voix de Dieu sans broncher. Oh, il aurait pu dire, le torrent du Kérit, c'est pas grand-chose. Et c'est juste en face le Jourdain. Le Jourdain, il y a d'abondantes eaux. Seigneur, il va y avoir la sécheresse, tu m'envoies vers un petit torrent. Kérit, c'est un petit torrent. Seigneur, en face, là, je vois le Jourdain qui déborde. Est-ce que tu peux pas m'envoyer là-bas? Dieu lui dit non, tu vas au torrent de Kérit. Il n'a pas discuté, hein, il n'a pas discuté. Des fois, on se dit, ouais, mais pour quelques personnes, moi, je rêve d'une grande église. Le Seigneur dit, va, là où je t'envoie, va. Kérit. Ah oui, le Jourdain, c'est autre chose que le torrent de Kérit. La voix de Dieu, le plan de Dieu, ce qu'il nous donne est le meilleur pour chacun d'entre nous. Il pourvoit. Dieu pourvoit. Il donne ce dont nous avons besoin au bon moment. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, moi j'ai manqué un moment vraiment? Non, nous pouvons dire, et je peux me faire le porte-parole, de dire que Dieu a toujours pourvu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et par expérience, on peut le dire, et il y aurait des témoignages là à raconter, mais jusqu'à ce soir, des témoignages de la fidélité, de la bonté de Dieu, Dieu la providence de Dieu a pourvu pour nos besoins. Il y a bien sûr une raison pourquoi le Seigneur envoie, l'Éternel envoie Élie au torrent de Kérit. Bien sûr, il y a une raison. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que les corbeaux n'aiment pas les grosses eaux. Les grandes eaux, ils n'y vont pas. Ils vont là où il y a un peu d'eau comme ça. Donc Dieu connaît toutes choses. Mais la deuxième raison, c'est que Dieu savait qu'il allait assécher le torrent de Kérit. Et ça, c'était la raison par excellence. Ce torrent allait être asséché. Pourquoi ? Pour que Élie puisse dépendre entièrement de Dieu. Élie puisse dépendre entièrement de l'Éternel. Le plan de Dieu, c'est qu'Élie arrive à une dépendance totale de lui. Dans Philippiens 4, au verset 11, quand vous relisez le chapitre 4 des Philippiens, alors c'est vrai que j'avais pas trop fait la relation, quand vous, au verset 1er, ça démarre avec une dispute. Vous verrez, il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur ». Elles avaient combattu, elles étaient des servantes du Seigneur. Et il dit, je les exhorte. Et quand vous finissez le chapitre 4, mais c'est tellement beau, ça part d'une dispute et ça arrive à une bénédiction extraordinaire. Vous relirez le chapitre 4. Bon, ce n'est pas le propos ce matin, mais chapitre 4 et verset 11, Paul dira, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je dirais, je puis tout par celui qui pourvoit. Par celui qui pourvoit. Jamais, bon, des fois il a été dans des situations difficiles, mais Dieu a toujours pourvu. Dans le verset 19, justement, de ce même chapitre, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Selon sa richesse. Est-ce que Dieu est riche ? On ne peut pas lui dire « Seigneur, si tu manques, toi ». Non, Dieu est riche. Il va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Souvenons-nous qu'il y a des choses, auxquelles Dieu a pourvu dans notre vie, mais ces choses, vous savez qu'elles sont passagères. Certaines choses auxquelles Dieu a pourvu, elles sont passagères. Et nous y attacher, c'est un risque de dépendre plus du don que du donateur. Et c'est pour cela, quelquefois, Dieu les enlève. Comme le torrent de Kérit s'est asséché. Voilà, Dieu, eh bien, parfois sèche un petit peu les choses pour nous emmener plus loin et nous donner autre chose. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie stagnante, je le dis souvent, mais le prophète Jérémie dira, mais ce monde, il est comme une citerne crevassée qui ne retient pas l'eau, mais Dieu est la source d'eau vive. Une source d'eau vive qui constamment coule et nous voulons aller à cette source d'eau vive. Dieu crée des circonstances dans nos vies afin que nous dépendions point des bénédictions qu'il nous a données. On les apprécie, on remercie Dieu pour cela, mais on ne veut pas s'y attacher comme si elles nous appartenaient pour toujours, mais nous attacher à celui qui nous les a données. Parfois, nous pouvons traverser, nous trouver dans le découragement ou quelquefois peut-être dans l'amertume, parce que nous dépendons plus des dons que du donateur. Alors, on ne sait pas pourquoi, comment c'est possible que Dieu envoie Élie alors que ce torrent va être asséché. C'est vraiment pour ça. Si Élie s'était habitué au torrent, il n'aurait pas connu une pleine dépendance de Dieu. Dieu est cette source d'eau vive. Et quand un endroit tarit, eh bien Dieu nous conduit vers un autre endroit, il renouvelle ses grâces et ses bontés à notre égard. Les corbeaux ont été des instruments de bénédiction pour Élie. ils ont été même des instruments de survie pour Élie. Vous savez que quand on obéit à Dieu, on devient des instruments de bénédiction. C'est automatique, l'expérience que nous faisons avec le Seigneur, elle va être utile pour quelqu'un d'autre. Comme ça, ça devient réel. Quelqu'un dit, j'ai prié, mais regarde, j'ai prié. Dieu est intervenu, Dieu est fidèle. On peut rappeler ces choses à ceux qui traversent ces difficultés. Dieu est fidèle. Il m'a béni, je ne suis pas meilleur que toi, mais il va te bénir aussi. Il a les ressources, fais-lui confiance, abandonne-toi entre ses mains et tu verras sa gloire. Dépendre de Dieu. Ces corbeaux, avec fidélité, ces corbeaux ont servi Dieu. Le matin et le soir, du pain, de la viande. Le matin et le soir. Et lui, il buvait au torrent. C'est tout. Mais je me dis, la viande, peut-être, il l'a trouvée quelque part. Je ne sais pas quelle viande c'était, mais le pain, où ils l'ont trouvé ? Corbeau trouvait du pain, ça ne se trouve pas dans la nature le pain. On a le blé, mais pas le pain dans la nature. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver le pain, mais Dieu est grand. Hein. Le matin et le soir, régulièrement, le matin et le soir, ils apportaient, c'est beau qu'ils obéissent, ils servent. Les animaux, des fois, nous donnent des leçons. Hein. Dans le livre des Proverbes, il est dit, regardez la fourmi, comment elle fait, regardez-la, et instruisez-vous avec les animaux. Bon, n'essayez pas d'avoir des corbeaux à la maison maintenant. Donc, ils ont servi fidèlement. En parlant de dépendance de Dieu, dans Matthieu chapitre 4 et verset 4, Jésus va reprendre un verset du Deutéronome et va le citer au diable. Il va lui dire dans le désert, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Face au diable, alors qu'il n'a plus, il n'a rien, Jésus, ni nourriture, ni eau, ni rien, pendant 40 jours et 40 nuits. Et face au diable, il va lui dire, parce que là, la tentation est grande pour Jésus. Vous imaginez, le diable sait bien où nous tenter et quand nous tenter. Il eut faim. Et à ce moment-là, il lui dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez, Jésus était dans une dépendance parfaite et totale de son Père, mais c'est ce que ça nous enseigne à nous, dans le contexte où il n'avait plus rien. Nous pouvons, pendant un temps, manquer de nourriture. Bon, on peut manquer parce qu'on jeûne, on ne mange pas. Bon, on peut se passer de nourriture, pas longtemps, hein. C'est moi qui vous parle, pas longtemps. Mais on peut manquer de nourriture. Mais par contre, celui qui dépend de Dieu ne peut pas se passer de la parole. Peut pas. La parole, elle est indispensable, elle est nécessaire, les promesses de Dieu. Vous rendez compte, quand on lit les promesses de Dieu, qu'on y ajoute la foi, elle crée la vie en nous. Il y a quelque chose qui se produit. On peut manquer, on dit, voilà, pendant un jour, je n'ai pas mangé, deux jours, bon. Mais la parole, non. Non. Ne laissons pas passer du temps sans la parole, parce qu'elle anime nos âmes, elle crée la vie en nous. Dans Ésaïe 48, verset 18, il est dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. » Est-ce que vous croyez dans cette promesse-là? Moi, j'y crois. C'est quand on se nourrit de la parole, elle crée en nous. Ah, ça ne se voit pas de suite, non. Mais quand on mange, on ne sait pas ce qui se passe. Toutes les calories, les vitamines, les trucs, on mange. Mais notre corps en reçoit des bienfaits. La parole, on la lit, on la médite, on la croit, et elle produit des choses en nous. On n'est pas dans la paix comme ça. On est dans la paix parce que Dieu nous communique sa paix au travers de sa parole et de son esprit. On n'est pas serein dans... Non, ce n'est pas automatique. Tout nous pousse à être inquiets. Non? Tout nous pousse à être inquiets, stressés. L'avenir, le présent, l'argent, ceci, cela, tout nous pousse à être stressés. Mais la parole de Dieu nous amène dans la paix. D'ailleurs, le chapitre 4 des Philippiens, il nous parle de la paix. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, digne de louange, etc., soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous vous rappelez de ces versets ? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand les torrents sont à sec autour de nous, la Bible nous dit, c'est dans le psaume 65 de mémoire, que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Quand toutes les sources tarissent, quand tout ce que peut-être on s'est appuyé sur cela et ça fait défaut, on avait compté sur un tel, on avait compté sur, et ça fait défaut, le ruisseau de Dieu, il est plein d'eau. Tu verses l'abondance, tes pas, etc., et le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et dans le psaume 84 et verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Un lieu plein de sources. Élie a expérimenté la dépendance avec Dieu. Il est devenu un instrument de bénédiction et on n'a pas lu le texte qui suit, je ne veux pas être long, mais quand vous lisez le texte qui suit dans 1 Roi 17, à partir du verset 8, vous apercevrez qu'à partir du moment où Élie a expérimenté la grâce, la bonté de Dieu, il a obéi et Dieu a pourvu à ses besoins, Dieu ne l'a pas laissé. À partir de ce moment-là, Dieu l'envoie pour être un moyen de bénédiction pour une veuve. Une veuve, justement, dont la source, elle a tari. Il nous est dit qu'elle avait juste un peu de farine, un peu d'huile, elle allait faire un gâteau pour elle, pour son fils, et après terminer. Et Élie va lui dire, fais-le pour moi. Il se dit, mais attends, il y en a un peu pour... Mais bon, ils n'auraient pas vécu longtemps hein, avec ça. Puis un petit peu, Élie dit, fais-moi un gâteau. Et à partir de là, cette veuve, elle obéit à Élie le prophète, et l'abondance va être dans sa maison. C'est beau. Vous lisez 1 Roi 17, 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Mais c'est tellement beau. C'est extraordinaire. Une maison où il y a tout est à sec. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de subsistance, de moyens comme aujourd'hui. On peut attendre des moyens d'ici et de là, mais là, à cette époque, c'était la mort certaine. Élie va venir là et va venir avec son expérience, avec son obéissance, avec la parole de l'Éternel, et le miracle va se produire. Et ce n'est pas un miracle ponctuel. Il nous est dit que jour après jour, eh bien, ça ne diminuait pas. L'abondance de Dieu était là. Moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, nous sommes au bénéfice de la providence divine, nous sommes au bénéfice, Dieu pourvoit à nos besoins, il est fidèle. Il est fidèle, mais il veut nous amener dans cette dépendance. Vous rendez compte, Dieu voit les cœurs. Quand on fait plus confiance à quelque chose ou à quelqu'un qu'à Dieu, bon, il ne nous rejette pas, mais il va nous amener dans un endroit où ces choses vont se dérober sous nos pas. Ah, je pensais que maintenant, ça y est, j'allais être tranquille pour... Non, avec Dieu, on ne s'habitue pas. Hein. Avec Dieu, c'est le renouvellement constant. Dieu renouvelle, une source tarie, Dieu va faire jaillir une autre source, un endroit, on ne s'habitue pas. Il ne faut pas se dire, voilà, je roule maintenant en roue libre, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Non, on doit dépendre de lui pour toute subsistance spirituelle. En premier, bien sûr, parce que c'est ça. En premier, c'est la richesse spirituelle, la bénédiction spirituelle, et le reste aussi. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus ou par-dessus. Alors peut-être que nous passons, quelqu'un passe par des difficultés, les torrents visibles sont peut-être à sec, mais le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et si nous bénissons les autres avec ceux que nous avons reçus de Dieu, nous serons bénis. On est appelé à bénir les autres. Ah, mais j'ai pas grand-chose. Béni. Béni et tu seras béni. Celui qui arrose, il sera arrosé. On ne reçoit pas la bénédiction pour nous, juste pour nous, et voilà. On reçoit la bénédiction pour être en bénédiction pour les autres. Ça, c'est important. Donc, la dépendance de Dieu. Quand on reçoit de Dieu, on ne peut pas le garder. On veut donner, on veut enrichir les autres, on veut les bénir. C'est comme ça. Élie a été un moyen de bénédiction. Et je termine avec ce verset dans Éphésiens 3:20, où il est dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous d'abord, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » En nous, cette parole, elle doit produire en nous. Elle doit nous bénir. Il doit y avoir un trop-plein. Un trop-plein pour déverser sur les autres. C'est ça l'Église. On est, le jour de la Pentecôte, on les entendait parler des merveilles de Dieu. Les gens sont accourus de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça la bénédiction de l'Église. On est rempli par l'Esprit de Dieu. On est rempli d'un cœur reconnaissant, de louange. Et les gens vont venir. Comment ils vont venir? Dieu va les attirer. Mais si ils viennent dans une église où, attention à ça, attention à ceci, et lui, et là, oh, mais si vraiment on s'ouvre, alors partons du principe que à partir du moment où je ne suis pas parfait, les autres non plus. Donc ça règle le problème d'entrée. Voilà, il faut aimer le Seigneur, l'aimer de tout son cœur, avec simplicité, avec foi, bénir les autres. Ouais, mais bon, moi j'ai pas, bénissons, nous sommes appelés à cela. Et Dieu va envoyer des vases vides afin qu'il les remplisse. Mais nous, laissons-nous bénir par le Seigneur, laissons-nous façonner, dépendons de lui. Quelqu'un qui s'approche du Seigneur, il ne voit pas Dieu, hein, nous non plus, mais il nous voit nous. Et si on révèle quelque chose de Jésus, eh bien, ça va lui donner un repère. Dire, mais ah oui, waouh, quelqu'un qui a la foi, il est comme ça. Quelqu'un qui prie, il est comme ça. Quelqu'un, ah tiens, mais ça va l'encourager. Mais si nous, oh, aujourd'hui, je ne suis pas content. Et demain, oh là, je vais mettre un gilet jaune maintenant. Ah, c'est. Qu'est-ce que ça va lui donner? Si nous voit triste, malheureux, on est heureux dans le Seigneur. On a des difficultés, mais on est heureux dans le Seigneur. Parce qu'il nous a sauvés, il nous a bénis, il nous a appelés comme Élie, il nous a donné une parole puissante, l'Évangile, afin que nous puissions bénir ceux qui sont autour de nous et bénir nos frères et sœurs. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. C'est la même parole que tu as donnée à Élie. Il est parti avec une parole de Dieu et il a pu être béni lui-même et il a pu bénir cette maison où il y avait le malheur. Seigneur, fais de nous, de ceux qui reçoivent ta parole, qu'elle produise en nous, comme tu l'as voulu, Seigneur, qu'elle nous transforme encore, et que nous soyons des moyens de bénédiction pour nos familles, pour l'Église, pour l'extérieur. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amène des vases vides et remplis-les, Seigneur, pour qu'ils puissent te glorifier au milieu de l'Assemblée, que ton nom soit béni. Amen.